VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon à ce micro, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 janvier, en direct avec
Michel Joseph.
Et nous commençons par les titres.
En RDC, les évêques catholiques présentent aujourd'hui leur rapport sur les élections du 30 décembre. Les résultats provisoires des scrutins toujours attendus d'ici à dimanche.
La présidentielle au Sénégal, 5 candidats ont pu passer le test des parrainages. 3 joueront les prolongations. C'est la première étape du processus de validation des candidatures à la présidentielle.
Le Burkina Faso, toujours dans le viseur des djihadistes. 16 personnes sont mortes ces dernières 48 heures après des attaques.
Ici aux États-Unis, échec des négociations sur le shutdown. Alors que le nouveau Congrès se met en place aujourd'hui, les démocrates contrôleront désormais la Chambre des représentants.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, la conférence des évêques, CENCO, doit présenter aujourd'hui un rapport qui se veut complet sur les élections, fruit du travail des 40 000 observateurs que l'Église affirme avoir déployés sur le terrain et dans l'attente de la proclamation des résultats provisoires des scrutins du 30 décembre prévus d'ici à dimanche. Le chef des observateurs électoraux de l'Union africaine a interpellé hier la classe politique congolaise. L'Afrique a les regards braqués sur vous.
L'ancien président Malien Diakounda Traoré dit avoir eu le souci de mettre les acteurs de la présidentielle en République démocratique du Congo devant leurs responsabilités à quelques jours de la proclamation des résultats provisoires. Dans l'attente de cette échéance à haut risque, les autorités congolaises ont coupé le signal de réception de Radio France Internationale, RFI, et retiré l'accréditation de sa correspondante en RDC, en plus d'Internet, qui est déjà coupé.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a validé les parrainages de 5 candidats pour la présidentielle de 2019. 3 candidats ont eu l'autorisation de régulariser les signatures litigieuses et 19 candidatures ont été refusées. Le parrainage est la première étape du processus de validation des candidatures à la présidentielle et finalement, peu de prétendants auront réussi à passer ce cap. De Dakar, la correspondance de Sedina Abagué.
Les 5 candidats ayant passé le cap du parrainage sont le président sortant Macky Sall, Ousmane Sonko, candidat du PASTEF, El Hadj Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, Khalifa Sall, candidat de la coalition Tahaou Sénégal ak Khalifa et Karim Meissa Ward, candidat de la coalition Karim Président 2019. Les candidats Idrissa Seck, leader de Réoumi, Modike Nian et Malik Gakou sont autorisés à apporter des corrections pour régulariser leur dossier de parrainage. Les 19 autres candidats ont été ajournés pour des motifs qui sont entre autres la non-conformité du numéro de la carte d'identité CEDEAO, les doublons internes, la non-conformité des régions ou représentations diplomatiques de vote ou la présence d'un parrain non inscrit sur le fichier électoral. Le nombre de parrainages d'électeurs récoltés et validés ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures, comme le soulignait le Conseil constitutionnel dans un communiqué publié le 29 décembre 2018. Un communiqué qui expliquait aussi que le candidat doit avoir 53 457 parrains validés, soit 0,8% du fichier électoral et au moins 2000 signatures dans cette région pour passer le cap du parrainage. À Dakar, Sidina Abagay pour VOA Afrique.
16 personnes ont été tuées entre mardi et mercredi à Irgou et Dablo, des localités situées dans le centre-nord du Burkina Faso, conséquence d'une attaque armée suivie de représailles qui s'en sont suivies. Les détails avec notre correspondant Lamine Traoré à Ouagadougou.
14 personnes tuées à Irgou et 2 autres à Dablo. C'est le bilan dressé mercredi soir par le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo. Tout est parti mardi, quand des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Irgou et tué 7 personnes, dont le chef du village. 3 de ses enfants et un frère ont également été tués. En représailles, les populations, appuyées des Kogluogo, une milice d'autodéfense, se sont attaquées aux Peuls, les accusant de complicité avec ces présumés terroristes. 7 Peuls ont été tués et plusieurs de leurs campements détruits, selon le gouvernement. Hier à Dablo, toujours dans la même région, des Peuls ont vu certains de leurs campements détruits. 2 morts sont enregistrés là. Un total de 16 morts et les recherches sont toujours en cours. Dans la soirée, le ministre de l'administration territoriale a lancé un appel au calme et a demandé aux populations de ne pas tomber dans le jeu des terroristes. Lundi, le président Roch Kabore a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays pour contrer la menace terroriste des islamistes armés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans la deuxième partie de cette édition, une interview d'El Hadj Abdoulaye Parfadam, le maire de la ville de Barsalgo, épicentre des dernières attaques au Burkina Faso.
L'armée du Niger a lancé des opérations terrestres et aériennes contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, dans le sud-est du pays, tuant plus de 200 terroristes, indique mercredi soir un communiqué du ministère nigérien de la Défense. Cette vaste opération de ratissage, lancée le 28 décembre 2018, est concentrée le long de la rivière Komadougou, qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria, et sur les îles du lac Tchad, poursuit le texte, lu à la télévision d'État.
En Guinée, le président Alpha Condé a accordé une grâce de nouvel an à 222 détenus, dont 3 personnes condamnées pour une tentative d'assassinat contre sa personne en 2011. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Fatou Badiar Diallo, Almami Agibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo font partie des détenus qui ont bénéficié de cette grâce. Ils avaient été condamnés en 2013 à 15 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État suite à une attaque du domicile privé du président Alpha Condé. Un membre de la garde présidentielle a été tué. Le président guinéen avait considéré cette attaque comme une tentative d'assassinat. Il avait mis en cause un responsable de l'opposition, un ex-ministre et homme d'affaires proche du général Sékouba Konaté, chef du régime de la transition de 2010. Le 27 mars 2017, la Cour suprême a cassé la condamnation à perpétuité du commandant Alpha Oumar Diallo, présenté comme le cerveau de l'attaque, et l'officier Jean Guilavodji. 5 autres condamnés, dont l'ex numéro 2 du principal parti d'opposition, ont déjà bénéficié d'une grâce présidentielle ou purgé leur peine.
En Guinée-Bissau, les enseignants ont décidé de prolonger leur mouvement de grève jusqu'à la fin janvier. Ils observent cet arrêt de travail depuis septembre. La rencontre entre les 3 syndicats d'enseignants et le ministère de l'Éducation s'est soldée par un échec.
En Centrafrique, un rapport d'experts de l'ONU affirme que des rebelles musulmans se sont fait livrer des armes par des trafiquants venus du Soudan, et cela bien qu'ils soient impliqués dans des pourparlers de paix. Les détails avec Bagassi Koura.
Le comité chargé du suivi des sanctions a précisé que les leaders de l'ex-Séléka se réarment face au déploiement dans les zones sous leur influence de troupes gouvernementales. Selon ce rapport, la faction UPC a reçu une livraison de fusils d'assaut, de mitrailleuses et de munitions en avril et qu'un nouvel accord a été passé en septembre avec les trafiquants soudanais équivalent à $165,000. L'arrivée d'armes du Soudan a abouti à ce que des combattants de l'UPC, Unité pour la paix en Centrafrique, et ceux du FPRC, Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, sont plus visibles avec des pistolets et fusils d'assaut, lance-grenades et mitrailleuses installés sur leurs véhicules, précise ce document adressé au Conseil de sécurité. Le Conseil qui doit voter à la fin de ce mois sur le renouvellement de l'embargo sur les armes. Imposé depuis 2013, le Conseil de sécurité a cependant approuvé des exemptions pour consolider une armée mal équipée. Le mois dernier, il a renouvelé le mandat de la MINUSCA pour un an, une force de plus de 11 000 casques bleus et quelques 2 000 policiers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les discussions sur le shutdown hier n'ont pas permis de sortir de l'impasse. Donald Trump s'est montré inflexible sur le mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique. Ses adversaires démocrates ont réaffirmé leur refus catégorique de le financer. Au 12e jour du shutdown, les discussions ont de nouveau été stériles.
Donald Trump s'est montré inflexible, vous l'avez dit, sur le mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique. Ses adversaires démocrates ont réaffirmé leur refus aussi de le financer. Les deux camps ont continué donc à se renvoyer la balle sans bouger d'un iota de leur position.
Cela dit, le nouveau Congrès se met en place ce jeudi. Le 116e Congrès américain prendra ses fonctions à midi, 17h GMT. 435 nouveaux élus à la Chambre des représentants, désormais contrôlés par les démocrates, et 100 sénateurs à la Chambre haute qui reste sous contrôle républicain.
L'armée américaine envisage des exercices de missiles anti-navires près d'Okinawa, dans l'extrême sud du Japon, une première dans le but de renforcer ses moyens de défense en cas d'imprévu dans le Pacifique pouvant impliquer la Chine, selon un journal japonais. La montée en puissance militaire rapide de la Chine énerve ses voisins voisin asiatique. Le chef de la défense japonaise a déclaré l'an passé que la Chine avait intensifié de manière unilatérale ses activités militaires. Et maintenant, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Cameroun bénéficiera de l'Association internationale de développement d'un crédit de 52,7 milliards de francs CFA pour appuyer les réformes de l'éducation, rapporte l'agence de presse africaine. Étalé sur 5 ans de 2018 à 2022, ce projet vise à améliorer la qualité de l'enseignement primaire avec une attention particulière pour les zones défavorisées. Il couvrira les zones d'éducation prioritaire ainsi que les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest où habitent les Pygmées et les Bororo. Le Niger prévoit d'atteindre une croissance économique de 6,5% en 2019, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2018. Il mise sur les investissements dans plusieurs secteurs, dont le pétrole, qui connaîtra des apports financiers de 4 milliards de dollars en 2019 et 2020. Le Niger souhaite développer son secteur pétrolier pour compenser les prix bas de l'uranium. Ce pays estime que sa croissance économique pourrait grimper à 7% dans les années à venir. Terminons avec l'Égypte où le bénéfice cumulé des banques a atteint 2,71 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de 2018, selon la Banque centrale égyptienne. Les 5 plus grandes banques représentent environ 44% du total des bénéfices réalisés par l'ensemble des établissements de crédit égyptiens. D'après les médias, il s'agit de National Bank of Egypt, Banque Misr, Commercial International Bank Egypt, Banque du Caire et Kenbe Alali.
À présent, le sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Joueuse africaine de l'année, les trois finalistes dévoilés.
Oui, comme pour les hommes, la CAF a dévoilé l'identité des trois finalistes pour le prix de joueuse africaine de l'année 2018. Il s'agit des Nigérianes Aziza Oshoala, double tenante du titre, et Francisca Ordega qui ont remporté la CAN féminine 2018, et la Sud-Africaine Christina Tembing-Gatlana, meilleure joueuse et buteuse de la compétition. Par rapport à l'année passée, vous l'avez remarqué, Ordega remplace la Camerounaise Gabrielle Aboudi-Ogene dans ce trio. La lauréate sera connue le 8 janvier.
Une soixantaine de blessés dans des violences lors d'un match en Algérie.
62 personnes, dont 45 policiers, ont été blessés lors de violences au cours des matchs de coupe entre le MC Alger et le club de Village Moussa. La rencontre a été interrompue à plusieurs reprises avant d'être définitivement arrêtée dans le temps additionnel par l'arbitre en raison des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les supporters de Village Moussa, dont l'équipe était menée 3-0, ont lancé des pierres entraînant l'intervention des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène.
Bagdad Bouneja a fait mieux que Ronaldo et Messi.
Et oui, avec 51 buts marqués en 2018, Lionel Messi termine l'année civile comme meilleur buteur des championnats européens devant son éternel rival, le portugais Cristiano Ronaldo, 49 réalisations. Cependant, d'après le quotidien britannique The Sun, l'international algérien Bagdad Bouneja a inscrit plus de buts que la Pulga en jouant moins de matchs. Le joueur d'Al Saad Club Qatari a en effet totalisé 55 réalisations en seulement 40 matchs disputés, soit 14 rencontres de moins que la Pulga.
Ici aux États-Unis, Ibrahimovic et le Los Angeles Galaxy ont un nouvel entraîneur.
Oui, la franchise la plus titrée de l'histoire du MLS a recruté Guillermo Barros Skeleto, son 5e entraîneur en 2 ans. L'Argentin, 54 ans, connaît déjà le championnat nord-américain de football pour y avoir évolué de 2007 à 2010 comme joueur sous le maillot de Columbus avec qui il a remporté le titre de champion et le trophée de meilleur joueur en 2008. Il était jusqu'au mois dernier l'entraîneur de Boca Juniors, battu en finale de la Copa Libertadores. Le Los Angeles Galaxy a remporté le titre de champion MLS à 5 reprises, mais n'a pas participé aux playoffs lors des 2 dernières saisons. Et puisque nous sommes aux États-Unis, on y reste pour parler de basketball. Avec vous, Jean-Roger, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Eh bien, Dallas a fait la peau à Charlotte, 122 à 84. Miami a dominé et a donné une douche à Cleveland, 117 à 92. Sursaut des Wizards de Washington à Atlanta, 114 à 98. Brooklyn a su devant New Orleans, 126 à 121. Boston s'est joué de Minnesota, 126 à 121. Orlando a défait Chicago, 112 à 84. Detroit a survolé Memphis 101 à 94 et Philadelphie a dominé Phoenix 132 à 127.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Villon. Nous passons maintenant à nos dossiers de ce jour. Au Burkina Faso, au moins 13 personnes ont été tuées mardi dans une attaque d'hommes armés suivie de représailles intercommunautaires à Yergou, un village de la commune de Bassalogo, dans le centre-nord du pays. La tension était toujours vive hier dans la zone désormais sous haute sécurité. Bagassi Koura a joint El Hadj Abdoulaye Parfadan Abnam, le maire de Bassalogo. On l'écoute.
Hier, aux environs de 7h30, des hommes armés sont arrivés dans le village de Yergou et ils ont abattu le chef de ce village-là, qui est en même temps un conseiller municipal de la commune, avec trois de ses fils et son petit frère. Au total, six personnes ont été abattues.
Oui.
Les assaillants sont repartis d'où ils venaient. Donc, les populations ont accouru et les forces d'autodéfense, appelées Corleone, qui étaient dans la zone, sont venues. Ils ont cherché d'abord à suivre les traces de ces assaillants-là, sans résultat. Et au retour sur les lieux, bon, il y a eu vraiment tout le monde était hors de lui. Et toutes les personnes qui ont été identifiées, qui ont été présumées complices, ont été, j'allais dire, exécutées.
C'est-à-dire juste des individus qu'on soupçonnait?
Oui, des individus qui ont. Ils avaient des mèches avec ceux qui sont venus abattre les yeux. Et donc, cette situation s'est transposée dans un certain nombre de villages et où bon, on a les populations ont pris, en tout cas, ont poursuivi les éleveurs, c'est-à-dire qui avaient tous ceux qui avaient des relations de famille avec ceux qui ont été abattus.
On dit qu'il s'agit d'éleveurs peuls.
Oui, des éleveurs peuls, exactement.
Est-ce que ce matin, des affrontements ont eu lieu?
Ce matin, non. Ce matin, il y a eu une alerte. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était une fausse alerte. Sinon, ce matin, effectivement, on a eu des formations qui disaient que les peuls aussi se sont organisés pour affronter les défis. Mais ce n'était pas avéré parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement, en tout cas, jusqu'à l'heure où je le parle.
Donc, à l'heure actuelle, le bilan, c'est 13 morts.
Oui, officiellement, c'est 13 morts, mais les forces de sécurité, de défense et de sécurité sont sur le terrain parce que nous avons eu des informations qui font état de morts, mais ils sont sur le terrain pour constater. D'ici là, nous verrons si c'est le bilan définitif.
Oui. Et justement, parlant de forces de l'ordre, est-ce qu'il y a des renforts déjà dans la zone?
Oui, il y a des renforts qui sont arrivés dans la zone. Et ils sont actuellement sur le terrain, au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie.
El Hadj Abdoulaye Parfadnam, le maire de la commune de Bassalogo, au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Mauritanie, Biram Da Abed, député et leader du mouvement anti-esclavagiste IRA, est sorti de prison le 31 décembre. Il était jugé par un tribunal de Nouakchott pour tentative d'atteinte à l'intégrité d'autrui. Le journaliste qui l'avait accusé a finalement retiré sa plainte. Le député est sorti libre car il a déjà purgé sa peine après 5 mois de détention préventive. Idriss Fall a recueilli la réaction de Biram Da Abed à Nouakchott.
L'agenda qu'il s'était fixé en choisissant un nouveau mode de m'arrêter en utilisant une taupe pour porter une plainte, dit-il, a été choisi avec exactitude pour m'empêcher de participer directement aux élections municipales, régionales et législatives. Concernant ce qu'ils ont fait maintenant qui a abouti à la relaxe, je pense que ça relève encore de leur agenda politique. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, mais l'intention première était de me garder jusqu'à après les élections présidentielles. Je pense que le refus populaire était très fort. Le désaveu national dans tous les états-majors politiques et civils était aussi large et déterminée, la communauté internationale avait aussi désapprouvé et la pression était forte. Ils ont décidé de trouver cette formule de l'axe, mais je ne sais pas pour combien de temps, parce que j'ai beaucoup d'indices qui me prouvent qu'ils sont très, très inquiets de ma participation aux élections présidentielles futures.
Mais vous allez retrouver votre siège à l'Assemblée?
Je ne sais pas. Dans ce pays, on ne sait pas parce que les gens piétinent les lois et la Constitution. Moi, par exemple, je ne peux pas être jugé tant que l'immunité parlementaire n'a pas été levée. C'est pourquoi j'ai refusé de participer au jugement, d'assister au jugement. J'ai entendu que l'on dit qu'ils ont rendu un jugement, je ne sais plus. Mais c'est étonnant qu'un tribunal normal rend un jugement contre un élu du peuple qui est muni d'une immunité. Je ne sais pas les embûches qu'ils vont poser devant moi quand je décide d'entrer à l'hémicycle. Je ne sais pas aussi les embûches qu'ils vont poser sur ma route dans les futures élections présidentielles.
Les États-Unis ont suspendu la Mauritanie de l'Agawa. Quelle est votre réaction?
C'est comme a dit mon ami Hamadi, nous ne sommes pas vraiment contents que notre pays soit épinglé pour des faits aussi honteux. Mais le gouvernement mauritanien n'a obtenu que ce qu'il mérite. C'est un gouvernement réfractaire à tous les principes de droits de l'homme, réfractaire à toutes les conventions des droits de l'homme et réfractaire à la lutte contre l'esclavage, un cancer qui gangrène notre société et que notre gouvernement encourage encore et protège les criminels et s'en prend de manière violente et systématique à tous ceux qui s'opposent à ce crime inique.
Le député Biram Dahabed, leader du mouvement abolitionniste, ira en Mauritanie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La Guinée a légalisé la polygamie après plusieurs décennies de débats. Les députés guinéens étaient en négociation depuis 3 mois avant de voter samedi un texte de loi devant régir les relations entre personnes. Ce code civil comporte de nombreux changements, mais les articles concernant la polygamie font débat surtout dans les milieux des femmes. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara, fait le point.
Les premières réactions sont celles des mouvements et associations de femmes. Elles étaient nombreuses lundi devant l'Assemblée nationale. Des femmes qui, pour dire leur mécontentement contre un code civil qu'elles jugent sexiste, les articles 281 et 282 portant sur la polygamie et qui donnent le choix qu'à l'homme, ne laissent pas indifférentes ces activistes et défenseurs des droits des femmes. Mais loin de ces femmes intellectuelles, on ignorait tout de l'interdiction de la polygamie. Mabinti, vendeuse de produits cosmétiques, vit sous le régime de la monogamie, mais ne semble pas aller contre l'amendement du Code civil. Ce n'est pas bien d'être seul. On tombe malade, on peut voyager. Si vous êtes deux, le vide pourrait être comblé par une autre. Jusqu'à présent, la polygamie est interdite en Guinée, mais aucun homme n'a été inquiété ou sanctionné. La pratique doit son succès aux pesanteurs sociales et à l'islam. La religion autorise jusqu'à 4 femmes. Catherine, étudiante et célibataire, ne recommande pas cette pratique.
Quand tu as une femme, tu vis paisiblement avec sa femme. Et si Dieu vous donne des enfants, vous allez vivre dans l'harmonie. Et avec la polygamie, tu as plusieurs enfants. Et les enfants-là ont des mères différentes. Et les mères-là, les enfants ne seront jamais d'accord entre eux.
C'est nous qui informons Mamata, vendeuse de poissons, de la légalisation de la polygamie. Sa réaction reste un avertissement aux hommes. Moi, Mamata, si je perds l'amour de mon mari au profit de ma coépouse, je passerai par d'autres moyens pour reprendre ma place. La polygamie ne donne pas longue vie aux hommes. Quand ils ont le gros ventre, on dit qu'ils sont bien nourris. Non, c'est l'effet des décoctions et autres produits des marabouts qui, à la fin, les emportent. Cette autre femme semble accepter la polygamie, mais avec une grande peur au ventre. Certains hommes changent après un deuxième mariage. Tu cesses d'être une femme aimée dès qu'il épouse une autre. Tout n'est pas critiqué par les femmes dans ce code civil révisé. L'autorité parentale, par exemple, est reconnue aux deux parents et la femme est libre de choisir sa profession sans aucun accord préalable de son époux. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
À Goma, dans l'est de la RDC, les auditeurs de VOA Afrique ont été marqués par plusieurs événements, dont notamment l'insécurité, les manifestations et les élections. Et presque tous ont le même souhait pour cette année 2019 qui vient de commencer. Ils veulent avoir la paix et la prospérité dans leur famille. Charlie Kasereka, notre correspondant, a recueilli les avis des habitants de Goma.
Cosmas Mungazi, je suis assistant à l'Université catholique La Sapiencia et éditeur du journal Flambeau de l'Est qui paraît ici à Goma. Deux grands événements m'ont marqué pendant l'année de 2018. C'est d'abord cette action du président de la République de se choisir un dauphin. Sur le plan démocratique, et pour moi, c'est un événement qui m'a marqué. Mais aussi, un autre événement qui m'a marqué, j'ai publié un livre cette année aux éditions universitaires européennes. Le livre est intitulé « Les médias du coupage de l'information à la communication ». Par rapport à mon souhait à notre pays, je souhaite que les autorités du pays donnent la liberté rédactionnelle, l'indépendance aux journalistes de publier les informations sans être inquiétés. Voilà mon vœu par rapport à l'année 2019.
En fait, je suis Monsieur Okito Temepapi. Je suis un habitant de la ville de Goma, père de 5 enfants. Je suis là, je suis débrouillard. Dès le début de cette année, j'étais content d'abord des élections. Et cela va faire du bien pour chacun de nous et de chaque Congolais. Le premier souhait, c'est d'abord d'avoir l'alternance au niveau du pays, voir un peu le développement du Congo dès 2019.
Je suis Christophe, je suis un habitant de Goma. 2018, j'étais profondément marqué par les meurtres à Beni. Et cela est dû à une mauvaise gouvernance du pays. Un vœu pour 2019, c'est avoir un Congo fier et prospère et partant d'un changement avec le vote. Il y a beaucoup d'entreprises.
Oui, bien sûr. Moi, je réponds au nom de Pepe Kishibanji Kombozi. Bon, moi, ce que je peux dire, je veux que 2019 soit une grande joie pour notre pays, soit un grand changement pour notre pays, comme tous les autres pays qui sont dans la joie.
Merci beaucoup.
Ok, merci aussi.
Bonjour, moi je m'appelle Denis Lusangi Lukuku. Un bon pays, c'est le paradis du monde, le Congo. Mais il faudrait assez que le Congolais ait conscience d'eux-mêmes. Oui, puisque le Congo ne va pas se bâtir avec des étrangers. Non, c'est nous-mêmes. Ayons conscience de notre Congo, de lutter, de travailler pour le Congo, comme les Chinois, vous voyez. Je voudrais assez que l'année 2019 soit une année de prospérité.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition de ce jeudi 3 janvier. Merci de l'avoir suivi. Kelvin Fowler à la console, Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Bonne journée à tous, à l'écoute de VOA Afrique.